Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, est-ce grave, est-ce dramatique? Peut-être pas. Finalement, il faut peut-être se dire que la modification du calendrier électoral libyen est plus raisonnable, plus conforme à la réalité du terrain, ce qui a été annoncé ces dernières heures, à savoir que l'élection présidentielle est maintenue le 24 décembre prochain. En revanche, les législatives ne se tiendront pas à cette date. Celles-ci sont repoussées d'un mois. L'idée générale étant que les deux scrutins étant ainsi écartés l'un de l'autre, ce sera plus facile à organiser. Également, cela laissera un peu de temps, un peu de délai pour réfléchir, pour travailler, pour faire appliquer une loi électorale qui n'est toujours pas connue du public puisque celle-ci n'a toujours pas été votée par la représentation parlementaire libyenne. Donc est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce report? Oui et non. Oui, parce que c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est décevant au regard des efforts qui sont fournis par les autorités de transition pour essayer d'avancer vers ces élections générales à marche forcée. Maintenant, c'est vrai que si c'est un délai qui va permettre d'y aller plus sereinement, il faut peut-être même se féliciter de ce report de ces élections législatives libyennes. En tout cas, ce qui tend à démontrer une fois encore, c'est que l'on a toujours aujourd'hui une volonté est-ouest-sud d'aller jusqu'au bout de ce processus électoral. Sachant que ces élections vont poser également la question des forces étrangères, qui est une question récurrente, et celle des mercenaires. Alors, il faut se souvenir qu'il y a de cela quelques jours, on avait eu écho en Syrie d'un retour de 2000 mercenaires possibles. Puis la ministre des Affaires étrangères libyenne avait évoqué une amélioration de ce dossier sur les mercenaires, mais elle n'en avait pas dit beaucoup plus. Et puis là, on vient d'apprendre qu'il y a un avion de transport qui a fait évacuer 300 mercenaires de nationalité syrienne. Ils sont actuellement en Turquie. Ils vont être ramenés au pays, donc en Syrie, dans les prochains jours. A priori, en tout cas, c'est ce que l'on subodore. Donc cela fait moins 300 mercenaires syriens, mais il en reste encore environ 7000 sur l'ensemble du territoire national libyen. Donc on est encore loin du compte, on est encore loin du jour où l'on pourra dire qu'il n'y a plus de mercenaires, ça c'est une chose, et le jour où l'on pourra dire qu'il n'y a plus de forces étrangères, ce jour-là, ce sera le jour où les forces turques seront parties, auront quitté le territoire national libyen. C'est une histoire quelque peu abracadabrante, mais les parents algériens qui ont leurs enfants à l'école et qui s'inquiètent de ne pas trouver les livres scolaires disponibles dans les librairies, dans les papeteries, eh bien c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, oui, il est difficile de trouver les livres scolaires pour ses enfants. Il y a eu émotion, il y a eu cette réponse des autorités du ministère de l'Éducation nationale qui dit qu'il n'y a pas de problème, qu'en fait les ouvrages ont commencé à être distribués à partir de janvier 2021, que les distributions auraient été achevé au mois de mars. Enfin, le fait est, c'est qu'il n'y a toujours pas aujourd'hui de possibilité pour acquérir sereinement ces livres. C'est-à-dire que ces livres, ils existent. Il y a des enfants qui sont à l'école qui ont ces livres, mais il y a toujours cette tension. Est-ce qu'on peut avoir tel livre? Non, il est en rupture. Pourquoi il est en rupture? On ne le sait pas. Est-ce qu'on peut avoir tel autre? Oui, celui-ci, c'est possible. Alors après, il y a des systèmes parfois de bakchich. Il faut dire les choses clairement. Il y a des gens qui sont prêts à payer plus pour être certains que leurs enfants vont bien avoir les bons livres d'école. Donc voilà, tout cela témoigne une fois encore des problèmes d'organisation qui peuvent régner en Algérie quant au fonctionnement de l'éducation nationale. Le suspense en Tunisie, toujours pas de formation gouvernementale, mais celle-ci est bien en cours d'élaboration. Il y a eu cette rencontre hier soir entre le président de la République tunisienne, Kais Saied, qui a reçu la chef du gouvernement, Najla Boudin. Ils ont pu parler, évoquer, échanger des avis, des appréciations concernant le devenir de cette équipe gouvernementale. Par ailleurs, en Tunisie, un mandat de dépôt a été émis à l'encontre d'un journaliste animateur, Amer Ayed. Celui-ci est impliqué dans une affaire judiciaire en raison de sa chaîne privée Zitouna. Lisa. Celle-ci diffuse sans licence, l'autorisant à diffuser donc ses programmes. Cela pose un problème au regard de la constitution et des lois tunisiennes, d'où ce mandat de dépôt. On se souvient de ces événements qui se sont déroulés à Arquise. Ces derniers jours, il y a eu des émeutes avec quelques Mauritaniens qui ont été amenés à s'expliquer devant les tribunaux de leur pays concernant des manifestations, parfois des actes qui étaient contraires à l'ordre public. Et aujourd'hui, ce sont des mouvements qui apparaissent dans la ville de Attar, où il y a des coupures d'électricité qui parfois, disent des villageois, durent 16 heures. De temps, 16 heures de coupure d'électricité, c'est effectivement difficile. Maintenant, est-ce que les gens vont redescendre dans la rue et prendre exemple sur Kiz pour eux aussi manifester? Cela fait partie des questions que la presse mauritanienne se pose au regard de la colère et aussi parfois de la désespérance de la population qui se demande pourquoi elle subit de telles coupures d'électricité. En tout cas, cela témoigne de mouvements sociaux qui sont réels actuellement en Mauritanie. Israël est prêt à redoubler d'efforts pour essayer de résoudre son différend avec le Liban. Les deux pays sont aujourd'hui, techniquement, ils sont en guerre. Il y a la question de la délimitation de leurs eaux territoriales en mer Méditerranée. Israël veut bien en discuter avec Beyrouth, mais il ne souhaite pas que ce soit les Libanais qui fixent les termes de la négociation. On sait que ces négociations ont commencé voici un an pour essayer de résoudre les litiges concernant cette zone d'exploration qui a un potentiel extrêmement riche en gaz. Aujourd'hui, les pourparlers sont au point mort. On espère un mieux avec l'envoyé spécial américain Amos Hochstein qui doit se rendre dans les deux pays, en Israël et au Liban. Ce sera ce mois-ci, au cours du mois d'octobre, pour essayer de donner un nouvel élan à ces pourparlers afin que le Liban puisse espérer trouver là, grâce à ce gaz en mer Méditerranée, des revenus qui lui permettront de renflouer les caisses d'un État qui se trouve aujourd'hui en situation de grave crise économique. Guerre civile en Syrie. Nous allons en Syrie aujourd'hui, c'est notre étape du jour avec ces questions qui se posent aujourd'hui, puisque la Syrie aurait a priori réussi à se faire admettre au sein du réseau de communication d'Interpol, de la police des polices, ce grand réseau mondial où les forces de police du monde entier travaillent ensemble et échangent des informations. Le retour de la Syrie dans ce grand réseau de communication inquiète parce qu'on se demande dans quelle mesure les autorités de Damas ne vont pas se saisir de l'opportunité pour procéder à des arrestations, pour essayer de retrouver des contestataires, des gens qui ne sont pas favorables au régime de Damas. Et donc, est-ce que le retour de la Syrie au sein d'Interpol ne risque pas d'avoir des conséquences dramatiques pour des gens qui se sont élevés contre les autorités syriennes et qui parfois ont combattu et qui parfois sont revenus au pays? Parce que c'est là aussi une véritable problématique. Aujourd'hui, les autorités de Damas disent que le pays est stable, ce qui n'est pas vrai puisqu'il y a toujours sur Idlib des bombardements et la situation est toujours extrêmement instable sur Deraa. Les autorités syriennes voudraient donc faire croire qu'il n'y a plus la guerre et donc elles appellent au retour des réfugiés. Mais lorsqu'on se tourne vers des sources sécuritaires libanaises, il est clairement dit qu'il y a des cas de réfugiés syriens, de gens qui ne veulent plus faire de politique, qui ne veulent plus faire de militantisme. Ils veulent tout simplement rentrer chez eux. Or, lorsqu'ils veulent passer la frontière, il y a aujourd'hui des arrestations et des personnes qui sont ensuite arrêtées et interrogées. On n'a pas exactement le nom des personnes, mais on sait qu'il y a des cas de torture qui ont été rapportés par des organisations humanitaires qui surveillent le retour des réfugiés. Tout cela se déroule alors qu'on a le sentiment qu'il y a véritablement une ligne de force qui est en train de naître aujourd'hui entre d'une part Amman, la Jordanie, et puis Damas. Il y a eu ce coup de téléphone en début de semaine du président Hassan avec le roi de Jordanie. Les deux pays veulent travailler ensemble pour essayer de relancer les relations économiques, notamment entre les deux pays. Il sait qu'il y a un poste frontière important qui a été ouvert, mais aussi des problématiques d'ordre sécuritaire, puisqu'il y a beaucoup de trafic de drogue dans la région. Et le royaume de Jordanie tient absolument à avoir des frontières sécurisées de telle façon à ce que sa population soit mise à l'abri des trafiquants de drogue. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde. Thank you.